Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Vivre ensemble, c'est la seule voie possible.
Antenne spéciale sur la conférence d'entente nationale. Mikado FM, Studio Tamani, Urtel. En direct du Palais de la Culture Amadou Ampateba de Bamako, le débat.
Le grand dialogue de l'émission Le Débat sur votre radio.
Studio Tamani.
Fidèles auditeurs de Mikado, de Studio Tamani et de l'ensemble de son réseau, merci de votre écoute. Bienvenue à la table ronde. Actualité oblige, la conférence d'entente nationale s'est ouverte ce matin au Palais de la Culture Amadou Ampateba de Bamako. Mikado FM, Studio Tamani et l'Urtel unissent leurs efforts pour vous faire vivre cet important événement. Cette table ronde, nous l'avons intitulée « Les Maliens se parlent ». Et quand les Maliens se parlent, ils se comprennent. Quand les Maliens se parlent, ils s'entendent pour aller dans la même direction. Justement, les jalons qui doivent aboutir à cela ont été posés à travers cette conférence d'entente nationale. Pour rappel, l'organisation de cette rencontre figure en bonne place dans l'accord pour la paix et la réconciliation. Aujourd'hui, on peut dire que ces choses au fait, les Maliens se parlent, c'est le thème de cette table ronde. Et pour l'approfondir, nous recevons comme invité le docteur Nafé Keïta, chargé de cours à l'Université de Bamako, membre de la commission d'organisation de la conférence d'entente nationale. Sur ce plateau également, nous avons monsieur Mohamed Ousmane Ag Mohamedoun, membre de la CPA. La CPA, c'est la coalition des peuples de l'Azawad, signataire du 15 mai, et maître Abdrahman Ben Mahamata Touré, avocat chargé de cours à l'université de Bamako. Bonsoir à tous, chers invités. Merci d'avoir accepté cette invitation commune de Mikado FM et de Studio Tamani. Mais pour l'animer, du côté de la technique, nous avons Nuhum Djiré. Moi, je suis Assassa Kiliba de Mikado FM et Issa Fakaba Sissoko de Studio Tamani. Bonsoir, chers confrères.
Bonsoir Assa, bonsoir à tous.
Alors, durant une semaine, les Maliens vont se parler, échanger pour se dire des vérités et ça sera autour d'une même table, c'est-à-dire dans cette conférence d'entente nationale pour arriver enfin au processus de paix, cette paix à laquelle aspire chaque Malien, n'est-ce pas Issa Fakaba Sissoko?
C'est ça, les Maliens se parlent, c'est pour cela que la thématique, les Maliens se parlent, quel sera l'impact de la conférence d'entente nationale sur le processus de paix, tel sera notre thème d'aujourd'hui. Et pour répondre à cette problématique, nous allons poser la question à M. Nafé Keïta. La conférence d'entente nationale, elle se tient pour certains enfin. Et quel est le processus qui a abouti à cette rencontre d'aujourd'hui?
Merci bien, très cher frère. La conférence d'entente nationale, c'est vrai, c'est une disposition de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale au Mali. Et il est dit que cette conférence doit être organisée avant la fin de la période intérimaire. Or, la période intérimaire commence du premier jour de la signature de l'accord entre 18 à 24 mois. Donc, de ce fait, le gouvernement qui a l'initiative pour engager le processus de mise en œuvre de l'accord est dans le délai.
Ok, merci Nafé. Assa, une question pour Mohamed Ousmane.
Alors, monsieur Mohamed Ousmane, à l'heure actuelle, est-ce que nous pouvons dire que ce rendez-vous est inclusif? Parce que l'opposition malienne n'a pas participé, une partie également de la CEMA n'a pas participé. Dans ce cas, est-elle réellement inclusif?
Bien, tout d'abord, merci beaucoup. Merci à nos auditeurs. Et d'abord, je rappelle que je ne suis pas membre de la CPA, mais je suis secrétaire général de la CPA. Et cela est important à préciser. Et je pense que cette conférence a été inclusive, et en ce sens qu'il n'y a pas eu de restrictions. Parce qu'on parle d'exclusion lorsque quelqu'un a été exclu délibérément. Donc, je pense que la conférence a été inclusive parce que ceux qui ne sont pas présents, c'est un choix. C'est un choix et je n'ai pas eu connaissance au niveau de la commission d'organisation et tous les acteurs qu'il n'y ait un seul acteur en tout cas qui ne soit consulté ou sollicité en tout cas en vue de sa participation. Donc de mon point de vue, je pense que cette conférence a été inclusive et malgré tout, certains sont invités, ils ne sont pas au rendez-vous. Comme l'ont dit les organisateurs ce matin, c'est un train qui a démarré et ils pourront le rattraper et à tout moment, à une des gares ou peut-être même au terminus. En tout cas, ce qui est important, c'est qu'on aboutisse à l'objectif qui est une entente nationale, une charte en tout cas de réconciliation. Merci.
Ok, merci Mohamed Ousmane. Maître Touré, vous êtes un observateur averti du processus de paix, du processus de mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation. Dites-nous, et quelle vaut une conférence d'entente nationale sans la participation de l'opposition et une partie de la CEMA?
Merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde, aux auditeurs d'abord. À mes copanélistes ici présents ainsi qu'à vous aussi de Studio Tamani. C'est vrai que beaucoup de choses ont été dites bien avant cette conférence. Ce qui est constant, c'est que nous remarquons que tout le monde n'est pas présent. M. Keïta Nafé l'a dit tout à l'heure, le gouvernement est dans les délais. Il s'est engagé à organiser une conférence d'entente nationale avant la fin de la période intérimaire. Donc il fait tout maintenant pour respecter cet engagement. Est-ce que le respect de l'engagement doit l'emporter sur l'idée même qui doit présider à cette organisation de la conférence d'entente nationale? C'est une question qu'on peut débattre. Si on regarde même le document de l'accord, la partie dans laquelle la conférence d'entente nationale est logée est intitulée « Fondement pour un règlement durable du conflit ». Ça veut dire qu'on n'est pas là simplement pour faire un traitement à base de sédatifs. C'est un curatif profond qu'on doit faire dans le cadre de cette conférence d'entente nationale. Et dans le cadre d'un traitement de fond de cette conférence d'entente nationale, il y a également les forces vives de la nation, il y a des groupes armés également qui sont présents. Maintenant, qu'est-ce qui a fait que ces groupes armés ne sont pas là? Qu'est-ce qui a fait qu'une bonne partie de l'opposition malienne n'est pas là? Il ne suffit pas simplement de dire qu'ils ne sont pas là, mais pourquoi ils ne sont pas là? De ce qui est sorti de leurs déclarations et des observations qu'ils ont eu à faire sur les termes de référence, c'est qu'il y a une question de timing. Certains ont estimé que les délais impartis est très court pour aller vers une conférence qui va traiter de la substance quand même de ces rébellions itératives. D'autres également ont estimé que les termes de référence qui encadrent la conférence dans les limites de l'accord sont assez restrictives et qu'il faut étendre cela à la question du centre. Moi, je pense que c'est des revendications qui ne sont pas au-dessus des moyens de la commission d'organisation. Je ne vois pas en quoi cela peut coûter que de prendre en compte ces différentes préoccupations si tant est qu'on veut aller vers l'inclusivité. Ils ne demandent pas ils n'ont pas dit qu'ils ne vont pas aller à la conférence. Mais étendons la question à la question du centre. Je pense que c'est quelque chose de fondamentalement objectif. Le délai imparti est relativement court. Étendons le délai également. Pour moi, il ne faut pas simplement constater leur absence, mais les raisons qui ont présidé à cette absence, est-ce que ces raisons sont objectives? Au vu de ce que je viens de dire, moi personnellement, je pense qu'on aurait pu capitaliser ces observations pour faire une conférence vraiment digne de ce nom.
Oui, maître, quand même, il était prévu quand même que cette rencontre se tienne 6 mois après la signature de l'accord, dont le délai imparti est court. Est-ce que l'argument peut résister?
Oui, c'est ça le problème justement. Est-ce qu'on fait quelque chose dans le cadre du respect d'un délai ou dans le cadre de l'atteinte de l'objectif? Si on veut aller dans la politique simplement de respect du délai, dans la politique également du décompte des activités réalisées, tel que prévu dans l'accord. L'accord a prévu qu'il faut faire le mot qu'on l'a fait, les DDR, il faut le faire. L'accord a prévu également qu'il faut faire une conférence d'entente nationale, on l'a fait. Si on rentre dans cette logique de comptabilité des activités réalisées au titre de l'accord, on ne sera pas dans l'objectif. Entre la signature de l'accord et aujourd'hui, le contexte a énormément évolué. Et beaucoup d'actes ont été posés et qui n'étaient pas prévus dans l'accord, mais des solutions ont été trouvées. La mise en place des autorités intérimaires, on n'a pas pu passer par la loi, on n'a pas pu passer par le décret, on est passé par une entente. Donc pourquoi ne pas également faire montre d'une intelligence dans la mise en œuvre de ces préceptes et de ces principes de l'accord dit de paix? Parce que personne n'a dit que c'est un accord de paix. Ce qui a été dit, c'est un accord pour la paix. Et la mise en œuvre intelligente implique également qu'on prenne en compte les données contextuelles. Et ce qui a été dit de la part des groupes armés et qui ne sont pas venus et de l'opposition, c'est des choses qui peuvent être prises en charge.
Alors, puisque nous sommes dans l'instant T et la conférence d'entente nationale s'est ouverte ce matin sans une partie de la CEMA et de la classe politique de l'opposition malienne, Dr Nafé Keïta, dans ce cas, quel véritable enjeu pour cette rencontre?
Oui, l'enjeu est de taille, mais je voudrais revenir à quelques éléments qui viennent d'être soulevés. D'abord, en termes d'inclusivité. Aujourd'hui, la commission préparatoire de la conférence d'entente nationale a tous les arguments du poids pour exhiber à l'opinion publique nationale et internationale les engagements souscrits par les partis politiques et par les mouvements aujourd'hui qui ne sont pas présents. Donc, pour la préparation de la conférence, ils sont membres des trois commissions et ils sont membres du comité de pilotage. Et au niveau du comité de pilotage, nous avons eu à discuter ensemble des termes de référence du règlement intérieur et du document de travail à soumettre aux participants. Ça, c'est le premier point. Le respect, quand on parle de respect de l'engagement, d'autant plus, il faudrait faire très attention. Nous sommes dans un cadre, une gouvernance normale. Nous sommes dans un cadre républicain. Ce que l'opposition a eu à demander, c'est davantage les concertations nationales que certains avaient eu à demander sous la période de la transition. Or, aujourd'hui, quand on voudrait organiser une concertation nationale, cela voudrait qu'on fait fi de la légitimité et de la légalité du pouvoir. À ce niveau, nous, en tant que membres de la conférence, membres de la commission préparatoire, nous ne sommes pas des poussistes et on ne va pas faire un pouf civil. Deuxième chose, il y a un gouvernement légal qui a la légitimité, qui a eu à signer l'accord, qui est en train de mettre l'accord en place. C'est vrai, beaucoup de gens parlent pourquoi ne pas intégrer l'insécurité dans les régions dites du centre. Pour toute personne, je dis bien pour toute personne, je ne vais pas parler des raisons ou de logique, pour toute personne qui a eu à lire les termes de référence, saura bien que toutes les problématiques, l'accord, la conférence d'entente nationale ne se limite pas seulement aux seules rébellions récurrentes. Tous les conflits qui ont touché n'importe laquelle des localités du Mali.
Ah, dans ce cas, quel serait l'enjeu? Pour y revenir directement.
L'enjeu, c'est que le Malien, en se parlant, arriveront à déterminer les causes profondes, les causes sous-jacentes, et pour trouver en réalité la thérapie la plus idoine qui puisse en réalité faire en sorte que ce pays-là qui se trouve en réalité dans le trou puisse relever sa tête de convalescent. C'est la première chose d'abord. Deuxième chose d'abord, quand on veut trouver une solution à une crise, il faudra que les gens et les uns et les autres se parlent. Que les gouvernants parlent à la population, que les Maliens parlent aux gouvernants et que les Maliens parlent à eux-mêmes. Tant qu'on n'arrivera pas à ce niveau, c'est cela fondamentalement tout le problème. Au jour d'aujourd'hui, quand on va parler du problème des CEMA, du problème de la plateforme, du problème du gouvernement, ce n'est qu'un pis aller.
Dans ce cas, comment allez-vous faire pour les faire venir à la rencontre?
Et à ce niveau, c'est vrai, chacun joue son rôle. Moi, j'étais au niveau de la commission préparatoire. Notre commission a préparé tous les éléments devant permettre à ce que la conférence puisse se dérouler dans les meilleures conditions. Si vous voyez aujourd'hui, vous n'avez pas vu un organisateur de la commission préparatoire qui se trouvait à la porte. C'est le gouvernement qui organise. C'est le gouvernement qui a signé un accord, qui a pris des engagements avec les partenaires. C'est au gouvernement de les amener en réalité sur la table de négociation.
D'accord.
Ok, professeur, merci. Je me retourne vers Mohamed Ousmane. Et on se rappelle que la conférence, on se rappelle que avant cette conférence d'entente nationale, il y a eu la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation. Vous êtes un des signataires de l'accord pour le 15 mai. Le 15 mai. Est-ce que avec la nouvelle donne, on ne craint pas une conférence d'entente nationale à deux niveaux, peut-être à l'image de la signature de l'accord de paix?
Bien, d'abord merci. Vous l'avez dit vous-même à l'image de la signature de l'accord. Effectivement, si on va aller vers ça, et on va aller vers ça, le président de la République, la commission d'organisation l'a dit ce matin, que c'est un train qui a démarré, il faut les rattraper à un moment donné. L'objectif, c'est la conférence d'entente. Le cadre sera défini plus tard. Donc ça, c'était pas ce qui était dit il y a quelques jours. Il y a quelques jours, il était question d'ouverture et de clôture. D'ouverture et de clôture avec l'aboutissement d'une charte. Mais là, il n'est pas le problème. Le problème aujourd'hui, comme je l'ai dit, l'accord, sa mise en œuvre réside dans la sincérité de ceux qui ont signé l'accord. Souvent, on se bloque sur des futilités. Excusez-moi de le dire, sur des futilités. Vous prenez par exemple le cas du comité de suivi de l'accord. Nous avons mis 8 mois pour mettre en place le comité de suivi de l'accord, simplement parce que des frères ne voulaient pas accepter une réalité scientifique, la prise en compte de 2 signataires de l'accord qui ont signé au titre de la CEMA, même si sur la page il est écrit « ont également signé l'accord », les accepter c'était 8 mois. Est-ce qu'à ce niveau, on va se poser la question, est-ce que c'est réellement les populations dont on se soucie? Est-ce que c'est la paix qu'on construit quand on connaît les pressions sur le terrain, les enjeux, les ennemis de la paix? Mais il y a lieu de se poser des questions. Après ça, avec les MOC, il a été tout simplement demandé de préserver le caractère inclusif de l'accord en mettant le maximum, particulièrement les mouvements signataires. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a valu qu'on bloque l'autre SEMA au bord de Gao pendant une semaine pour qu'il y ait une rallonge. Bon, maintenant, on se pose la question. On se pose la question aujourd'hui, quel est le vrai problème? Est-ce qu'on est sincère dans la mise en œuvre de l'accord? Parce que tout ce qui nous bloque, c'est des futilités. Moi, je suis un des négociateurs de l'accord de Ouagadougou. J'ai négocié l'accord d'Alger. Et j'ai fait partie de la toute première composante de la CEMA qui a signé l'accord le 15 mai. Mais je sais ce que j'ai négocié. Je sais ce que j'ai signé. Quand je suis conscient et je suis d'accord avec ce que j'ai signé, moi, je peux considérer que cette conférence d'entente, vraiment, on n'a pas à s'éterniser là-dessus. On n'a pas à s'éterniser, mais l'accord a tout réglé. Sauf si on démarre un nouveau processus de négociation, et je n'ai pas de problème à ce qu'on démarre un nouveau processus de négociation, mais qu'on soit sincère, qu'il y a des choses quand même qui sont réglées par l'accord, on ne peut pas tourner autour. Là, c'est un problème. La sincérité de ceux qui ont signé l'accord. Et quelque part, je vous dis, le gouvernement a une part de responsabilité. Parce qu'en tant que principal acteur, c'est lui qui donne l'impression qu'il y a deux poids, deux mesures. Quand, par exemple, on prend le cas de la CEMA, il y a une composante de la CEMA qui a signé l'accord le 15 mai, il y a une autre qui a adhéré à l'accord le 20 juin. On a l'impression que c'est plutôt le 20 juin, c'est là que la CEMA est venue. Et pourtant, les différents discours des deux ministres des Affaires étrangères, au jour de la signature, avaient dit clairement et aux Nations Unies qu'une composante de la CEMA a signé l'accord le 15 mai. On ne peut pas les nier du jour au lendemain et manifester par des comportements comme si les autres étaient relégués au second plan, tant bien même que même sur le plan militaire, ils ne sont pas au second plan. Seulement, ils ont osé faire la paix et je crois qu'il faut que les gens se comprennent que celui qui ose faire la paix, c'est celui-là aussi qui peut faire la guerre. Okay. C'est extrêmement important. Donc je dis aujourd'hui, je pense honnêtement que ce processus est un processus qui va connaître des niveaux, comme vous l'avez dit. Et c'est peut-être ce qui va faire sa beauté. Et c'est peut-être ce qui a été la chance dans ce pays de faire en sorte qu'il faut laisser toujours une fenêtre ouverte ou une porte ouverte pour ceux qui arrivent en retard, leur donner l'occasion d'arriver. C'est là extrêmement important.
Merci. Alors, Assa.
Le grand dialogue. Alors, Maître Touré, si nous faisons une analyse de la situation, cette non-participation de l'ensemble des membres de la CEMA ne prouve-t-elle pas que le mouvement même est divisé?
La question de la division des mouvements, c'est quelque chose qui a été constaté depuis le début jusqu'à maintenant. Il y a beaucoup de scissions au sein des mouvements. Ça peut s'expliquer, il y a des raisons internes à cela. Maintenant, est-ce que l'accord globalement est impacté par cela? C'est évident. Quand les mouvements qui ont été à l'origine ont vu également beaucoup de dissensions, beaucoup de divisions, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres qui ont été créés. Mais si vous regardez bien, depuis le début des négociations à Alger jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a une question qui intervient très souvent, c'est la notion de partie prenante. Au début, le commun des mortels n'a pas très bien compris pourquoi on s'agrippe à cette notion de partie prenante. C'est très important parce que dans la mise en œuvre, l'expérience a démontré qu'il y a une atomisation qui intervient très souvent. Et lorsqu'il y a une multiplicité d'acteurs sur le même champ par rapport à la mise en œuvre d'un même document, des problèmes peuvent intervenir. C'est pourquoi les groupes armés étaient très jaloux, dans un premier temps, de la notion de partie prenante et de la limitation à ces parties signataires. On a eu beaucoup d'épisodes à ce niveau, on a évolué, mais jusqu'à présent, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'autres mouvements qui sont intervenus. Puisque c'est des mouvements également qui sont intervenus et que c'est des acteurs qui sont présents sur le terrain et qui peuvent avoir un impact aussi sur le processus de paix, moi je pense qu'on peut aller au-delà de la notion de partie prenante et de prendre en compte également tous les mouvements dissidents, essayer vraiment de fédérer tout cela pour avoir un bloc et aller vers la mise en œuvre de cet accord-là. Et par rapport à, pour revenir à la conférence d'entente nationale, M. Nafé Keïta a dit quelque chose ici tout à l'heure qui m'interpelle et qui me fait peur d'ailleurs lorsqu'il dit qu'on a un gouvernement légitime et qu'organiser des conférences concertation nationale porterait atteinte à leur légitimité. Je ne sais pas si j'ai repris exactement tes mots, mais cela fait peur. Quand on est dans un gouvernement et qu'on est et qu'il y a le peuple et que le peuple est souverain, je ne vois pas en quoi la concertation d'un peuple peut être caractéristique d'une forme de putsch. Moi, je pense que le mot est relativement fort et il faut éviter ce genre de mot lorsqu'on veut organiser une conférence d'entente nationale. L'autre chose également, les groupes armés, certaines forces vives ont été membres du comité d'organisation. Ce qu'on a vu, c'est les projets de termes de référence. Des observations ont été faites sur le projet et ces observations doivent être intégrées par le projet. Le projet, ils ont décidé de ne pas intégrer ces observations. Cela ne veut pas dire que du fait simplement que leurs représentants étaient dans les différentes commissions de travail, qu'ils ont validé la chose. Moi, j'ai pas vu les termes de référence définitifs à ce jour-là. Mais j'ai vu les termes de référence, le projet, j'ai travaillé là-dessus, mais les définitifs, je n'ai pas vu. Il n'y a pas que les partis politiques de l'opposition, le collectif des ressortissants du Nord, le COREN, a également travaillé en profondeur sur la question. J'étais membre des commissions techniques, on a fait des observations qui vont dans le même sens, mais ces observations également n'ont pas été prises en compte. Donc c'est un choix que de ne pas venir. Le COREN a décidé de venir, mais les partis politiques de l'opposition ont estimé qu'ils ne peuvent pas venir. Donc c'est une liberté également qui est là. Mais la participation de certains de leurs éléments dans les commissions préparatoires n'est pas une onction de l'approbation de tout ce qui est sorti à travers les actes posés par les comités provisoires, enfin comités de préparation. C'est bien ça le mot.
Maître, je reste avec vous pour juste comprendre quelque chose. Est-ce que concrètement la conférence d'entente nationale que nous organisons en ce moment répond au contenu que l'accord pour la paix et la réconciliation a souhaité donner à la conférence d'entente nationale prévue dans l'accord?
Oui, moi je peux vous dire que la conférence d'entente nationale, dans sa version actuelle, correspond exactement à ce qui est dans l'accord. Parce que ce qui est dans l'accord, on dit que cette conférence va être organisée par les parties prenantes et les différentes composantes de la nation viendront discuter des problématiques. Et l'un des fondements pour le consensus dans le cadre de la préservation de l'unité nationale, c'est la compréhension commune de la notion d'Azawad. Et les termes de référence également sont assez clairs. Ils disent que la conférence d'entente nationale va se tenir dans les limites de l'accord. C'est là où il y a un problème parce que beaucoup de forces vives de la nation malienne s'attendent à ce que cette conférence aille au-delà des limites de l'accord. Mais en organisant la conférence d'entente nationale dans les limites de l'accord, je pense qu'on est dans la droite ligne de ce qu'il y a dans l'accord, mais ça ne peut pas résoudre le problème tel que c'est prévu. Parce que la question doit aller au-delà des limites de l'accord. Il l'a dit tout à l'heure que la conférence d'entente nationale, dans le cadre des projets de termes de référence, notamment les objectifs spécifiques, disent également que la question va être étendue à celle du centre. C'est dans les objectifs spécifiques. Maintenant, le centre n'était pas pris en compte lors de la signature de l'accord. On ne peut pas dire d'un côté que la conférence d'entente nationale se tiendra dans les limites de l'accord, en même temps dire que cette conférence va s'étendre au niveau de la question du centre. Soit vous faites sauter le verrou des limites de l'accord, on va vers une conférence ouverte avec une vocation souveraine, soit on reste dans les limites de l'accord, on ne prend pas en compte la question du centre. On ne peut pas avoir quelque chose de son contraire.
Professeur Nafé, on sait sur beaucoup de points, Maître a émis quand même des réserves, notamment quand vous ajoutez à cela les propos de l'opposition qui estime que certaines de ces propositions n'ont pas été prises en compte, ou quand la CEMA dit qu'elle ne participe pas parce que parmi les raisons, il n'y a pas eu le retour des réfugiés. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on est parti, qu'on a précipité un peu les choses?
Et à ce niveau, je me dis deux à trois petites choses. La première chose, c'est lors de d'une session des Nations Unies que le président de la République a annoncé l'organisation de la conférence d'entente nationale au mois de mars. Entre-temps, il a nommé un président pour préparer la conférence d'entente nationale. Il avait à peu près 3-4 mois. 3-4 mois pour faire une œuvre utile. J'ai eu la chance d'organiser le forum de Coren. J'étais le rapporteur général adjoint. Nous avons eu à faire ce travail-là en moins de 2 mois. Or, c'était l'un des plus grands forums que le Mali organisait. J'ai eu la chance d'organiser les états généraux de la décentralisation. J'ai eu la chance d'organiser les assises nationales sur le Nord. J'ai eu la chance d'organiser le forum de paix de Gao et la semaine de la paix de Tombouctou. J'ai eu la chance d'organiser l'atelier national pour la validation d'abord de la feuille de route pour l'accord d'Alger, du projet d'accord d'Alger et l'accord d'Alger. Donc à ce niveau, ce n'est pas une question de timing, c'est une question en réalité de méthode. Premièrement, jeudi, toutes les rencontres que nous avons eues à initier, au niveau de la CEMA, au niveau de la plateforme, au niveau de la classe politique, personne n'a eu à dire qu'elle ne va pas participer au processus. Personne. Deuxième chose, quand on a quitté le projet d'accord, le projet de terme de référence, pour arriver au terme de référence, les membres de la CEMA et de la plateforme sont venus ensemble. Ils ont dit, suivant leur compréhension, le 27, c'est l'ouverture d'un processus. Et le processus va continuer 3-4 mois. Or, quand on va dans un processus, on ne parle plus dans le cadre d'une conférence. À ce niveau, on a eu à faire appel à qui de droit ? Parce que nous ne sommes pas leur interlocuteur direct. Nous sommes des partenaires pour préparer une conférence ensemble. Deuxième chose, quand j'ai parlé de concertation nationale, j'ai dit en référence à la concertation nationale demandée par certains sous la transition. Tous les partis de l'opposition et même de la majorité qu'on a eu à rencontrer, personne n'a eu à faire référence à cette concertation. Au moins, que ces deux niveaux soient clairs. Et troisième niveau, ce que je voudrais ajouter. C'est vrai, il est dit, la conférence d'entente nationale va s'organiser dans le cadre de l'accord. Dans les limites de l'accord. Ceux qui ont signé l'accord, et cet accord va s'appliquer sur un pays, sur un territoire, sur des hommes. Ce n'est pas en réalité des choses statiques, c'est des choses dynamiques. Et même dans l'accord, il est dit, il n'est pas dit que les Maliens vont se pencher sur les causes profondes des révoltes et rébellions. Sur les causes profondes des crises que le Mali a connues.
Dans la partie septentrionale.
Non.
Si c'est précisé dans les objectifs spécifiques.
On prend l'accord. Cela n'est écrit dans aucun des 68 articles et ni dans aucune des 4 annexes de l'accord.
C'est écrit dans les termes de référence que vous avez ventilés. L'objectif spécifique numéro 1.
Je parle des termes de référence définitifs qui se trouvent aujourd'hui dans les documents de travail et que tous les participants ont sous la main. Il y a un projet qui a été sous-clé pour que les gens puissent interréagir. Je ne parle plus au niveau du projet parce que nous sommes à l'organisation de la conférence. Je parle des termes de référence de la conférence.
Oui.
Voilà.
On travaille sur les projets et personne ne voit les termes de référence à peu près et on va à la conférence directement.
Mais aujourd'hui, les termes de référence définitifs sont dans un document de travail qui a été.
On ne distribue pas ça le jour.
On ne distribue pas ça le jour de la participation.
On diffuse ça en amont.
Oui, tout à l'heure. La diffusion a été faite au niveau de la plateforme et au niveau de la CEMA.
D'accord. Ok, ça a été suivi. Alors, je viens du côté de Monsieur Aga Mohamadoun. Si je ne me trompe pas, vous êtes plutôt le secrétaire général de la ACEPA. Alors, vous disiez tout à l'heure dans votre intervention que le gouvernement a une part de responsabilité dans le fait que tous les groupes armés ne prennent pas part à cette conférence d'entente nationale. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Que le gouvernement souffle et le chaud et le froid ou a-t-il peur de quelque chose?
Je ne sais pas exactement de quoi il a peur, mais peut-être qu'il a peur aussi de quelque chose. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en tant que signataire de l'accord, nous ne sommes pas à la CVGR. Nous n'avons pas été consultés pour la CVGR. Ça, c'est important à savoir. Nous n'avons pas été encore consultés à présent. Les commissions DDR, commissions d'intégration et réforme sécuritaire, nous ne sommes pas encore là-dedans. Nous avons négocié récemment, nous attendons toujours. Alors, de quoi il a peur pour signer ce décret? Point d'interrogation. Nous sommes signataires de l'accord et les faits sont têtus. Il ne sera pas mis en œuvre sans nous. Donc, c'est pourquoi je dis que le gouvernement a une part de responsabilité parce que c'est lui le principal acteur. Alors, si le gouvernement continue toujours à s'accommoder de la camisole tripartite, CEMA, plateforme et gouvernement, et chaque fois, il sait qui doit lui dire à la CEMA et qui doit lui dire à la plateforme, on ira loin. Conséquence, combien de dissidences que vous avez aujourd'hui, combien de fois la CEMA est cassée, combien de dissidences se sont alignées autour des deux signataires, la CPR et la CMFRD, avec lesquels nous partageons une entente qu'on appelle l'entente du 25 janvier 2017. Tout ça, si le gouvernement, depuis très tôt, avait assumé ses responsabilités, quelle que soit la lecture tripartite, gouvernement, c'est ma plateforme, le gouvernement peut bel et bien dire, tiens, nous avons signé l'accord avec la CPA et la CMFR2, leurs droits ne sont pas accordés au sein de la CEMA, il est de notre devoir, parce que nous avons signé un accord avec eux, de les consulter pour quoi que ce soit. J'en viens à la conférence d'entente. Ça aussi, c'est une autre étape. Nous n'avons pas été consultés, mais on n'en a pas fait un problème. Parce que pour nous, aujourd'hui, dans cet accord, ce qui est important, c'est de faire en sorte que les vrais dividendes de l'accord puissent être palpables, concrets. Les dividendes de l'accord, c'est quoi? C'est d'organiser rapidement ces réformes qu'on attend au niveau sécuritaire. Organiser les cantonnements, organiser les DDR, organiser les retours des... Ça, c'est des choses, des actions concrètes. Mais chaque fois, ces activités concrètes qui sont vitales pour le pays, qui sont vitales pour les populations, sont toujours reléguées au second plan pour une histoire de méthodes, de procédures, d'autorités intérimaires qui ne sont même pas dans l'accord, des choses. Chaque fois, on crée une situation qui bloque l'essentiel. L'essentiel, c'est le retour des réfugiés. C'est la viabilisation des sites pour les accueillir. C'est organiser les élections partout pour que des responsables légitimes soient là. C'est ça l'essentiel. C'est organiser les cantonnements, c'est organiser les DDR. Et les mouvements sont prêts à cantonner. Mais il y a une camisole de force qui s'appelle CEMA Plateforme. Et à la CEMA, il y a un ou deux personnes qui décident. Les autres plus importants sont inaudibles, on ne les entend pas. Ça, c'est une responsabilité du gouvernement.
D'accord.
Pourquoi il le fait? Il doit répondre, nous dire pourquoi il le fait.
Okay.
En tout cas, il ne se mettra pas en œuvre cet accord sans nous, ça c'est clair.
Le grand dialogue.
Je rappelle que vous écoutez le grand dialogue qui se tient en ce moment au Palais de la Culture et co-animé avec nos collègues de Mikado. Nous appelons le grand dialogue. Et maître, je vous donne la parole. Est-ce que aujourd'hui il est utile d'aller vers cette politique de la chaise vide? Est-ce que ça va être payant pour les partis?
Franchement, je ne sais pas ce que vous appelez la politique de la chaise vide.
C'est le refus de participer sous prétexte que les préoccupations n'ont pas été prises en compte. Est-ce que la conférence d'entente nationale n'était pas le cadre pour dire que nos préoccupations n'ont pas été prises en compte?
Bon, moi je pense que dans cette affaire, il y a une grosse peur de la part des parties prenantes, c'est avec l'idée que la chose n'échappe à personne. Donc voyez-vous, ce qui peut sortir de cette conférence d'entente nationale, c'est la production qui est la charte. Personne n'a envie que cette charte lui échappe. Donc on ne peut pas maintenant venir à quelque chose sans pour autant maîtriser tous les contours. Parce que très rapidement, on peut se retrouver dans une situation où on vous dit vous êtes membre d'une commission, mais vous n'êtes pas d'accord avec tout, et à la sortie, on va dire que vous étiez dedans pourtant. Finalement, c'est l'émanation de la volonté de toutes les parties. Moi, je pense personnellement qu'au jour d'aujourd'hui, cette conférence d'entente nationale dans ce format-là, on va l'organiser parce que c'est prescrit dans l'accord, mais ça ne va pas être le remède à cette crise-là. Il faut également, comme l'a dit tout à l'heure mes co-débatteurs, il faut également que le gouvernement adopte une certaine posture. Si vous regardez la position de notre gouvernement au jour d'aujourd'hui, il n'est pas dans une position très facile. Il est acculé par les dissensions entre les groupes armés. Les uns et les autres le soupçonnent de faire prise de parti pour tel ou tel groupe.
Ici, maintenant, dans la société, dans la classe politique également, il y a un gros problème. On estime que le gouvernement n'a pas été suffisamment courageux pour défendre les intérêts du Mali, notamment en ce qui concerne son intégrité territoriale et la forme unitaire de notre État. Dans la société civile également, beaucoup pensent qu'on est en train d'aller vers un système, une architecture institutionnelle sans mettre les mots réels là-dessus. Donc le gouvernement, il fait l'objet de beaucoup de tirs croisés et il faut maintenant qu'ils adoptent une posture et qu'ils apprennent à dire la vérité aux Maliens. Moi, je pense que c'est ce qui nous manque dans cette affaire-là. Tant qu'on ne dit pas effectivement la vérité aux Maliens, on va toujours essayer de bricoler, on va toujours essayer de faire semblant. Et le soupçon qu'on a, c'est que tout le monde pense que le gouvernement fait semblant. Donc on n'a même pas confiance au gouvernement. Dites aux Maliens, voilà ce que nous avons signé. Voilà les implications et les enjeux. Préparez-vous à accepter cela. Là, on va y aller. Mais on nous dit que ce n'est pas ça. Et les actes qu'on pose maintenant nous montrent qu'on est sur cette lancée-là. Donc le gouvernement s'est décrédibilisé tout seul aux yeux des populations du Mali, aux yeux des groupes armés, aux yeux de l'opposition malienne. Donc il faut qu'on parvienne à lire, avoir une lisibilité dans la démarche de ce gouvernement-là. Et nous ne sommes pas, les Maliens ne sont pas des enfants, ils sont en capacité de comprendre. Si nous avons perdu le nord du Mali, qu'on nous prépare à accepter la perte du nord du Mali, l'alternative qu'on a trouvée, c'est celle-là. Qu'on nous la dise de manière concrète, plutôt que d'essayer d'éviter.
D'accord. Et Nafé Keïta, aujourd'hui, qu'est-ce qui va changer après cette conférence d'entente nationale? Qu'est-ce qui va changer?
C'est vrai. L'un des objectifs de la conférence était de produire une charte d'entente nationale pour la paix, l'unité et la réconciliation. Mais pour tous ceux qui ont assisté à la cérémonie d'ouverture, les objectifs ont été revus en raison davantage en termes de production des éléments d'une charte et que le gouvernement et le président de la République, en fonction des pouvoirs qui leur sont siens, vont réunir, quitte à eux de définir cet espace-là, pour déterminer les contours d'une charte. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, au cours de la préparation de cette conférence, j'ai appris au moins une chose. On n'est pas en train de perdre le pays. Mais si on veut perdre le pays, nous ne sommes pas en train de travailler pour ne pas perdre le pays. Parce que pour la petite histoire, en moins d'un mois, j'ai fait 2 séjours à Kidal. C'est pas parce que j'étais l'un des plus heureux. J'étais avec des officiels, mais j'étais l'un de ceux-là qui pouvaient accéder à toute une partie de la ville. Et presque chaque jour, j'avais un mouton. Donc, en ce temps, comme un des intervenants le disait aujourd'hui, c'est vrai, dans toutes les familles, il y a des crises, mais les membres de la famille doivent travailler en conséquence pour résorber cette crise avec les mots qui s'y, avec la vision qui s'y, avec la formule qui s'y, et dans la franchise et dans un contexte de confiance. Il nous faut retrouver cette confiance perdue entre les uns et les autres davantage.
Et Mohamed Ousmane, on a envie quand même de vous demander aujourd'hui, le retour des réfugiés reste encore une grande problématique. Concrètement, qu'est-ce qui bloque vraiment ce processus-là?
Mais je crois que ça aiderait beaucoup à ce que le gouvernement joue sa partition, je l'ai dit. Les mots secrets, c'est pour ça, c'est l'inclusivité. Aujourd'hui, quand vous prenez ces mouvements aujourd'hui que le gouvernement tente d'exclure dans certaines décisions ou occulter pour faire plaisir à d'autres qui ont des agendas, sont plus impliqués et ancrés parmi ces réfugiés. C'est eux qui doivent les ramener. Mais on a toujours occulté aujourd'hui ces mouvements, relégués au second plan, et pourtant c'est eux qui doivent aider les pays à ramener les réfugiés. C'est extrêmement important. Donc je dis, si on veut ramener les réfugiés, si on veut amener le Mali à l'unité nationale, si on veut ramener la paix, il est urgent et impératif que le gouvernement du Mali se souvienne que son mot secret, c'est l'inclusivité. Et qu'il a signé l'accord avec des acteurs qu'il ne peut pas ignorer au détriment d'une ou de 2 personnes. Okay. Parce que vous savez, nous avons signé l'accord le 15 mai. Ça a ouvert la boîte à Pandore aux signatures.
Mais imaginez si ceux qui ont signé, si tous ceux qui ont signé l'accord le 15 mai étaient dessus par les gouvernements, qu'est-ce que ça va devenir? Posez-vous vous-même la question et vous n'avez pas besoin de répondre à la question. Si tous ceux qui avaient signé l'accord le 15 mai étaient dessus par les gouvernements et par les acteurs, quelle serait la suite?
Ok. Maître Touré, rapidement, avec la situation dans le pays, ce document que tout le monde attend, cette charte, ne va-t-elle pas être un document de plus?
Bien sûr, vous l'avez dit. Il a dit tout à l'heure qu'ils ont été obligés de trouver une formule alternative pour pouvoir donner un peu plus de vigueur à cette charte initialement attendue. J'ai entendu le médiateur sur les ondes de la télévision nationale avant la conférence d'entente nationale. Sa version quand même de la charte m'a paru comme étant une recommandation issue d'un atelier qu'on va soumettre aux autorités politiques. Il y a beaucoup de productions. Cette crise du Nord est largement documentée. Il y a plus de 1 500 000 recommandations qui ont été faites. Il ne s'agit pas de faire des recommandations. Encore faudrait-il que ces recommandations aient une vigueur juridique et qu'on soit en capacité de les mettre en œuvre. Cette conférence d'entente nationale, lorsqu'on regarde ce qui va en sortir, moi je me dis vraiment que ça ne vaut vraiment pas la peine. On va la réaliser simplement parce qu'on s'est engagé à le faire. Le président de la République a donné une date. On va respecter cette date-là, mais ça n'apportera absolument rien. Donc, en plus, toutes les populations du Nord ne sont pas présentes. Les populations de Kidal, en tout cas, ne sont pas présentes dans cette conférence d'entente nationale.
D'accord.
Kidal, c'est là-bas où le problème se pose. Donc, vraiment, cette conférence, pour moi, ne servira absolument à rien.
Et Maître Touré, nous n'allons pas être pessimistes. Le temps qui nous est imparti est pratiquement terminé. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette table ronde qui se tient dans le cadre de la conférence d'entente nationale. Nous étions avec le docteur Nafé Keïta, membre de la commission d'organisation, Mohamed Ousmane Ag Mohamedoun, secrétaire général de la coalition des peuples de l'Azawad, et maître Abdramane Ben Touré, avocat chargé de cours à l'université de Bamako, analyste. Merci chers invités d'être venus. Un grand merci à nos auditeurs de Studio Tamani et de Mikado FM. Merci à vous également, chers confrères Issa Fakaba Sissoko. Alors moi je suis Assassa Kiliba, tous les deux nous avons animé cette table ronde. À très bientôt pour une nouvelle table ronde commune.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Vivre ensemble, c'est la seule voie possible.
Antenne spéciale sur la conférence d'entente nationale. Mikado FM, Studio Tamani, Urtel. En direct du Palais de la Culture Amadou Ampateba de Bamako, le débat.
Le grand dialogue de l'émission Le Débat sur votre radio.